Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, sur RFI bien sûr. Ça, c'était Habib qui nous disait bonjour à tous.
Ouais, exactement, j'étais content pour les Lions.
Le Jamba.
Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et oui, des lions et des aigles qui rient, des éléphants, des étalons et des léopards qui pleurent. Sénégal, Maroc et Tunisie disputeront la prochaine Coupe du Monde en Russie et ils ont bien fêté leur qualification. Alors que Côte d'Ivoire et Burkina Faso resteront à l'écart et broient du noir après de tristes ou cruelles éliminations. La RDC aussi, bien sûr, dans cette liste. Retour sur ce week-end, donc riche en émotions. En Europe, Croatie et Suisse se sont joints aux heureux élus européens. Reste deux places et l'Italie vit dans l'angoisse ses heures d'incertitude quant à sa participation à la grande fête mondiale. Et puis la fin de l'aventure marseillaise et peut-être européenne pour Patrice Evra. L'OM a mis fin à son contrat alors que l'UEFA l'a sanctionné pour son geste bien peu sportif en Ligue Europa contre un supporter. Il y a Habib Bey dans ce studio, il y a aussi Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Franck Simon, bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Enfin Christophe Jousset est à mes côtés, bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Le but de Diafra Saro. Diafra Saro. Le centre de Diafra vers Sadio Mané. Sadio Mané. Le but. Le but. Le deuxième but. Le but du Sénégal.
Accélère. Niquez les loquets à Kawako. Les lieux du Sénégal.
Alors Habib, cette chanson, c'était de votre époque. Les buts, c'était vendredi soir.
Oui, c'était tout était réuni pour une belle fête. C'est vrai que...
Comment vous l'avez vécu, vous, ce match?
Très bien, très très bien. Je vous l'avais dit ici, j'avais une certaine certitude de la qualification des Lions en vue du scénario, puisqu'il y avait ce match à rejouer.
Et ils avaient deux matchs pour le faire.
Exactement.
En plus.
Et puis la qualité aussi de cette équipe, parce qu'il faut le dire. Ils sont tombés face à une équipe d'Afrique du Sud qui est très joueuse et qui m'a épaté en termes de jeu. Mais je crois qu'Aliou a très très bien préparé ses joueurs. Sur le plan tactique, ça a été étudié. Ils ont contré cette équipe d'Afrique du Sud. Et ils gagnent ce match 2-0. Et c'est une très bonne chose, 16 ans après, puisque en 2018, ça fera 16 ans. Que le Sénégal retournera en Coupe du Monde, c'est bien par rapport à tout ce qu'on a fait nous et qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse enfin se montrer aux yeux du monde. Donc on est tous satisfaits, Sénégalais, amateurs de foot. Et j'ai eu beaucoup de messages, même de Maliens, d'Ivoiriens, de Camerounais qui sont très contents de voir le Sénégal de nouveau en Coupe du Monde.
Habib, justement, vous faites allusion à ces 15 ans ou 16 ans après. Vous avez posté sur les réseaux sociaux une très jolie photo, Bruno Metsu et Jules Bokandé côte à côte. Sur le banc, évidemment, ça rappelle plein de choses parce que le Sénégal n'était pas venu en Coupe du Monde depuis ce temps-là, mais il y avait aussi ces deux personnages qui aujourd'hui ont disparu et qui avaient tant fait pour que vous y soyez.
Oui, c'est une grande symbolique parce que lorsqu'on voit ce qu'a fait Bruno Metsu pour ce Sénégal, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui enterré au pays. Et puis Jules Bokandé, l'illustre Jules Bokandé, qui a été une légende au sein du football sénégalais. C'était nos pères, nous, à cette époque-là. Et puis je pense que d'où ils sont aujourd'hui, un peu à l'image de cette photo, ils doivent être les plus heureux du monde. Donc, de voir ce Sénégal retourner en Coupe du Monde. Et puis, il y a, on en parlait avec Franck, le fait que le capitaine à l'époque était Aliou Cissé. Et que depuis, personne n'avait ramené le Sénégal en Coupe du Monde. Et c'est lui, le sélectionneur, avec un
l'ancien
staff...
L'ancien capitaine.
Ouais, exactement, avec un staff très génération 2002. On a essayé d'opposer ces générations. On n'oppose pas des générations. Ces générations sont faites aussi pour s'identifier. J'ai l'impression qu'Aliou a su fédérer tout un groupe, une jeunesse, des joueurs de grand talent à l'image de Sadio Mané, à l'image de Diafra Sakho ou éventuellement Keita Baldé. C'est une équipe qui mérite sa place en Coupe du Monde et j'espère qu'elle fera briller le Sénégal.
Franck, évidemment, on y a tous pensé à cette équipe de 2002 parce qu'à l'époque, en plus, plus, non seulement ils sont là pour la première fois, mais ils font mal d'entrer non seulement aux Bleus, mais ensuite pendant la compétition.
Ouais, ça a été une aventure formidable. C'est une aventure qui restera longtemps gravée dans les cœurs de, je pense, de beaucoup de monde, et pas seulement des Sénégalais, parce qu'ils ont vraiment écrit des choses. Et ce qui est bien, c'est que ça a été raconté. Il y a eu des ouvrages, il y a eu des films aussi qui ont été faits auprès d'eux, parce qu'il y a eu une Coupe d'Afrique des Nations au Mali quelques mois auparavant. Et on a la chance d'avoir restitué aujourd'hui sur la pellicule et dans des livres ce qu'ils ont fait, même si je pense que, voilà, on a Habib, alors on a la chance d'avoir quelqu'un qui l'a vécu. Et je pense qu'il doit être, comme tu le disais, hein, tu dois être super fier, parce que tu dis, voilà, derrière, il y a quelqu'un qui arrive derrière nous. Comme l'Algérie l'a vécu en 2010, pour ceux de 82 et de 86, ils avaient aussi besoin de savoir que il y aurait une génération qui irait aussi pour continuer à montrer ce qu'est le football du pays.
C'est bon pour la discographie également, puisqu'on va
ça
pouvoir
va permettre de renouveler, ouais.
Actualiser les bandes, parce qu'en Algérie, ils en avaient un peu marre de Assad Belloumi et Madjer en 82. D'autres noms de joueurs sont apparus. J'imagine que ça va être
vous
pareil.
Vous avez entendu dans la bande son, oui. Sadio Mané s'est glissé partout,
donc voilà, je trouve que c'est ouais. C'est très bien. Moi, je suis content pour le Sénégal déjà. Alors, j'ai absolument rien du tout contre l'Afrique du Sud. Au contraire, je trouve que c'est un pays qui, comme l'a dit à juste titre Habib, joue bien au football. Il leur manquait peut-être un tueur devant ou un buteur à nos amis sud-africains. Maintenant, le Sénégal, c'est un peu à l'instar souvent du Mali, de la Côte d'Ivoire, c'est un potentiel toujours extraordinaire, du matos. Et ce que j'aime, on va dire, dans cette équipe sénégalaise, pas par rapport à celle de 2002, mais celles qui ont succédé, je trouve qu'elle est bien fournie, pour le coup, au milieu de terrain. Ce qui, pour moi, était souvent un peu la difficulté.
Ouais, il y avait trop d'attaquants.
C'était coupé en deux. T'avais Souleymane Diawara derrière, Kader Mangane, des phénomènes. Devant, t'avais des Moussa Sow, Mamadou Niang. T'en avais trop, quoi. Et au milieu, c'était un peu le désert de Gobi. Hein. Je caricature un peu, mais là, je la trouve bien équilibrée. Alors, évidemment, dans le contenu, à l'image un peu de l'équipe de France, elle transforme pas totalement, son potentiel, parce qu'elle a des joueurs extraordinaires. Mais en tout cas, si elle met de la rigueur, c'est une équipe qui est capable de sortir d'un premier tour d'une Coupe du Monde. Hein.
J'espère que le public sénégalais et tous les autres ne vont pas chercher à opposer ce qu'a fait la génération d'Habib et ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est deux histoires tout à fait différentes. Il faut leur laisser la construire, continuer de la construire. C'est une histoire, et je pense qu'Habib ne me contredira pas là-dessus, qui a commencé dès les Jeux Olympiques de Londres, puisque vous en retrouvez 6 ou 7 dans cette équipe. Aliou était l'adjoint de Karim Segadiouf à l'époque. Ils avaient été en quart de finale, battus par le Mexique, futur vainqueur des Jeux Olympiques de Londres. Et donc, voilà, on a capitalisé sur cette équipe-là. C'est un peu différent pour votre équipe, Habib, je pense, hein, parce que vous, c'était vraiment plusieurs strates qui se sont, plusieurs couches qui
oui,
se sont.
Oui, c'est surtout retrouvées. Bruno qui l'a construit, cette
et
équipe.
Et puis voilà, il y avait Bruno. Même si je pense qu'elle démarre un petit peu quand même avec Peter Schnitger, faut lui rendre aussi un petit peu ça. C'est Bruno a aussi. Été le catalyseur.
Il Bruno a,
été
a le... su ramener des binationaux voilà. qui avaient plus ou
mais
moins.
Mais Peter Schnitger a, je pense, aussi donné un petit peu dès la Cannes, dès les années 2000.
Voilà. Il était entraîneur
il y avait à la Cannes. Il y avait les fondations et Bruno a été vraiment le grand catalyseur. On peut pas lui enlever.
Et ils étaient sortis, enfin bon, si on fait un peu du flashback, vous étiez sortis d'une poule incroyable, extrêmement difficile.
Égypte, avec la France championne du monde,
avec le Maroc,
Algérie, Égypte, c'était l'enfer.
Ce qui était incroyable, c'est qu'on avait perdu en Égypte 1-0 et on pensait que c'était fini. On bat le Maroc à domicile 1-0.
Le match tournant.
But de Ferdinand Colly et on va en Namibie où il faut qu'on gagne 5-0, enfin, en tout cas un peu plus de 4
dans le grand froid, de Vindou.
Exactement. Il fallait que de l'autre côté, l'Algérie et l'Égypte, je crois.
L'Algérie ne laisse pas l'Égypte gagner.
Voilà, exactement. Mais c'est ce qu'ils ont fait.
Vous êtes comme ça, Nabil.
Ce moment-là où vous voyez le Sénégal se qualifier la vendredi soir, est-ce que ça fait remonter des souvenirs que vous aviez peut-être qui n'avaient pas été réanimés depuis?
Oui, parce que c'est le moment de la qualif. On s'identifie, et j'aime bien le mot de Franck qui dit il faut surtout pas les opposer, c'est que on a tendance à penser qu'une génération va effacer une autre, même si demain, et je le souhaite du plus profond de mon cœur, ce Sénégal va en demi-finale de Coupe du Monde, de toute façon on sera pas effacé, on va se rappeler des deux générations, on a tellement marqué ce pays, et c'est ce qui était fort, hein, ce qui m'a touché justement quand j'ai vu ces images, et j'ai même envoyé un message à Lamine en lui disant, vous m'avez presque fait verser une larme, c'est quand je vois Aliou Cissé au sol, parce que je sais tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu dans les critiques, et il s'est toujours focalisé sur son groupe, et de voir Lamine Diatta, ils sont de la même génération, Tony Silva, Omar Dav qui a travaillé aussi avec eux, c'est une image qui est fantastique pour ce que représente le Sénégal, pour tout ce que représente cette génération, et c'est pour cette image doit montrer que on n'oppose rien. on rallie justement.
Non, et vous d'ailleurs, t'en es l'exemple, hein, puisque t'es derrière, tu les encourages.
Ah oui, moi je les pousse.
Pousses,
moi je suis l'homme le plus content, le plus heureux aujourd'hui de voir mon pays retourner en Coupe du Monde, d'imaginer qu'une génération va suivre la nôtre. Ça, c'est juste fantastique. Et puis il y a des joueurs qui, tout le monde mérite d'aller dans.
Bon joueur, hein.
En Coupe du Monde.
Alors évidemment, il y a cette ombre au-dessus de la génération nouvelle, mais écoutons Moussa Sow, parce que Moussa Sow, il dit, on va peut-être avoir la génération 2017.
On en parle des 3 points et c'est ce qui nous emmène à la Coupe du Monde. Des fois, on s'est dit de jouer en contre-attaque, mais on avait du mal. Aujourd'hui, on s'est pas pris la tête. On s'est dit qu'il fallait bien défendre surtout et qu'on allait avoir des opportunités, pourquoi pas des occasions, c'est ce qu'on a fait. C'est magnifique, 15 ans après, c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de parler de la génération 2002. Donc là, je pense qu'on va parler de la génération 2017, 2018 plutôt. C'est important pour nous, c'est important pour tous les jeunes qui sont là et c'est cool.
Voilà la génération 2018 qui a commencé eh bien en gagnant d'entrée, c'est-à-dire que on le savait, ils avaient ces 2 matchs, ce fameux match à rejouer, ils pouvaient même perdre en Afrique du Sud et ils font mieux, ils gagnent et en plus un match éclair, on va dire, parce que ouais. C'était deux attaques, deux occasions de but pour le Sénégal qui a gagné 2-0, Franck.
Ouais, avec un Sadio Mané encore une fois à la baguette, il a même pas besoin d'être à 100% maintenant en fait. Hein.
Et il a pas marqué en plus.
Il fait c'est tout les comme Mané,
oui, bien sûr.
On a regardé le match ensemble.
On est d'accord.
Hein, donc, mais voilà, passe d'Ess, et puis il est sur le deuxième, il est bon sur le premier de Diafra Sarro. Mais voilà, très intéressant. Mais le gardien aussi fait un gros match. Hein. Et tous, en vérité, on sent, voilà, c'est une équipe qui essaye de construire son histoire, une équipe qui était très soudée, très solidaire, qui s'est pas laissée manipuler par le jeu. Cette équipe très joueuse d'Afrique du Sud. Et franchement,
il y a vraiment pas à sa place en Afrique du Sud quand on voit qu'ils sont derniers du groupe.
Mais c'est toujours comme ça.
C'est
l'Afrique
vraiment
du
pas
Sud.
À leur place lorsqu'on voit qu'ils sont capables
c'est
de.
Toujours comme ça. Mais t'as jamais une équipe type.
Ouais. C'est pas si vous avez remarqué. Il leur manque quand même. On en discutait la semaine dernière dans Radio Foot. Même si c'est un collectif.
Ah bah ils ont plus un Benny McCarthy.
Voilà,
ou
il leur manque
Barclay,
quand même à un moment, même si des fois c'est une malédiction, mais il leur faut quand même une ou deux stars qui peut parfois.
Le Sénégal là avec Sadio Mané. Ouais, donc. Ouais. Mais c'est un signe parce qu'on avait la Djidjouf à l'époque.
Ouais, qui avait mis 8 buts. Hein.
Qui était la star. Qui ensuite après le mondial avait signé à Liverpool. Sadio Mané est maintenant déjà à Liverpool.
Déjà.
T'avais Henri qui faisait du boulot. Henri Camara. T'avais Fadiga qui était aussi important.
Ah Fadiga pour moi on a beaucoup parlé des l'âge, mais je pense que Khalif Fadiga était le génie de cette équipe en termes de talent pur, c'est vrai que et là j'étais exceptionnel, il y a rien à dire là-dessus, mais Kali a été un joueur juste exceptionnel et c'est vrai que ce Sénégal là aujourd'hui dans cette génération a peut-être moins de talent individuel, mais je pense qu'Aliou Cissé a réussi à construire un groupe
autour
de lui. Alors on a parlé de sa rigueur, on a parlé de sa rigidité aussi tactique, mais on se rend compte que parfois pour sortir des poules, et je pense qu'Aliou en est conscient, lorsqu'on va et Nabil suit la Coupe d'Afrique, on suit tous ces événements. On a vu que le Cameroun a été champion d'Afrique en construisant un groupe très solide. Vous savez, parfois il faut être peut-être un petit peu moins séduisant, mais se mettre dans une
pragmatique en Coupe d'Afrique,
non, mais
faut
être pragmatique en poule surtout, parce que le plus important c'est d'aller dans la compétition. Une fois que tu y es, tu peux mettre en place des choses qui sont peut-être un petit peu plus séduisantes sur le plan du jeu, mais je crois qu'il a très bien mené sa barque et aujourd'hui de gagner, vous l'avez dit Annie, avant de jouer ce match au Sénégal, ce soir, ça sera en tout cas demain, ça sera une
fête maîtrisé.
Incroyable.
C'était maîtrisé quoi, à défaut d'avoir dominé le match, ils ont maîtrisé le truc.
Il va falloir gérer quand même l'arrivée jusqu'à la Coupe du Monde, même s'il faut ça.
Mais t'as pas de Coupe d'Afrique. Ouais. Alors que Habib et sa génération, ils ont eu une Coupe d'Afrique qu'ils auraient mérité de gagner, faut quand même le dire.
Ouais, c'est vrai.
Après, ça s'arrête en finale au tir au but. Mais vous avez géré les éliminatoires dans la foulée, la CAN au Mali, à Bamako, où vous faites un super parcours, de belles rencontres. Et derrière, t'enchaînes sur une Coupe du Monde. Ils arrivent sur les dents, ce qui fait que vous êtes éliminé par les Turcs en quart de finale. Mais vous aviez.
Mais on arrive avec aucun blessé. Et ça, comme dit Nabil, c'est vrai.
Compte, c'est la gestion.
On a vu par exemple Sadio Mané se blesser là il y a quelques semaines. Il faudrait pas que ça arrive sur juste
lui,
avant la compétition.
Pas qu'il se blesse parce que c'est un coup dur.
Mais il vaut mieux pas qu'il se blesse même pour Liverpool parce que du coup ils l'ont ramené là. Hein.
Écoutez, je choisis le Sénégal que Liverpool et Franck aussi puisqu'il est supporter.
Moi je suis Everton, je suis plutôt bleu.
Il sera pas à Dakar pour le mais dernier match, mais
ça sera une grande fête. Ça sera une grande fête évidemment, bien sûr. Pour
imagine.
Le public,
on en parlera mercredi d'ailleurs. Christophe.
Oui, ils ont pris un petit risque peut-être avec Sadio Mané là. Il était à combien à votre avis là, Habib? Il était à 70.
Oui, mais on a vu la discussion ici, c'est que un joueur comme ça, lorsque vous avez autant de talent et que vous avez autant autant d'impact sur une équipe. Alors, je sais qu'il a été aussi critiqué en sélection pour son manque d'efficacité devant le but.
Ah, mais il a pas marqué beaucoup hein, cette année. Hein.
Mais
il se réserve pour la Coupe du Monde.
Il marque beaucoup avec Liverpool. C'est pour ça que les gens font ce transfert entre ce qu'il est en club.
Il fait les passes décisives. Et
exactement.
Alors, il a trottiné. Il a donné les ballons de but. Et à côté de ça, contre cette équipe d'Afrique du Sud, fallait surtout pas se livrer totalement parce que justement, ça leur permettait eux de bien se replacer. Ils ont su gérer ça. Et ça, c'est moi je trouve qu'ils ont bien,
ils ont vraiment bien.
Il fallait qu'ils jouent ce match. C'était trop important.
C'était bien pour eux et bien pour le Sénégal et bien pour Sadio Mané aussi.
Donc ils ont rendez-vous maintenant à Dakar et ça sera de nouveau face à l'Afrique du Sud et on y reviendra évidemment mercredi après la fête parce qu'on imagine ça sera la fête. Hein,
il y a déjà eu apparemment oui. En tout cas une fête au retour.
Au retour, ouais.
L'ambiance dans les rues de Dakar. En tout cas cette campagne des Lions s'achève alors que s'achève aussi c'est les rêves des étalons. Eux ils ont été évidemment ils joueront demain soir contre le Cap-Vert, mais ces étalons qui étaient emmenés par Paolo Duarte, qui rêvait lui aussi d'emmener son équipe à la Coupe du Monde, eh bien, ils étaient déçus. Écoutons Aristide Bancé au micro de Gabriel Barrois.
Un peu déçu, on peut dire un peu déçu. Depuis qu'on savait que le Sénégal allait rejouer les matchs, et ce soir, le Sénégal a gagné 2-0. Bon, on peut dire qu'on est déçu, mais bon, c'est pas grave, c'est le football. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et nous, on a un match mardi. Voilà, je pense que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas perdu ici chez notre stade. Et on doit continuer sur cette lancée. Voilà, c'est-à-dire gagner, finir avec un bon score. C'est-à-dire que faire plaisir au public quand même, gagner chez nous. C'est vrai qu'on est éliminé, mais nous, on va se battre quand même pour la deuxième place. Pour montrer aux gens que s'il n'y avait pas ce match à rejouer, peut-être le Burkina pourrait être qualifié.
Alors Nabil, la deuxième place c'est cruel, mais en même temps ils avaient perdu en Afrique du Sud et c'est
là
ce jour-là. Exactement.
Eux, ouais. Ça s'est joué. Mais alors c'est vrai que ce match à rejouer qui est quand même sans précédent.
Ça les a plombés, je pense.
Ça
moralement.
Bon, c'est vrai que je pense qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Il faut reconnaître quand même le caractère exceptionnel. Encore une fois, on l'a peut-être pas assez dit, mais tant mieux parce que moi je suis contre l'injustice. Ça me dérange pas quelque part. Et si ça peut en vacciner certains dans le futur, ça me dérange pas
un match à rejouer.
Non plus. Voilà. Ouais. Enfin, je vous le dis clairement. Maintenant le Burkina Faso, on est un peu quand même triste pour eux parce que déjà en 2014 ils s'arrêtent au niveau des barrages face à l'Algérie, ça se joue à rien, à un but à Blida sur un CSC de Baki Koné qui envoie le ballon sur Bouguera qui marque dans une cacophonie incroyable. Et là encore une fois ils vont être coiffés sur le poteau par le Sénégal. Cette équipe du Burkina, elle réussit quand même un cycle.
Ouais, ça confirme quand même la qualité de ce groupe et du travail qui est fait.
Ouais, voilà, ça valide quand même. On l'oublie encore une fois que cette équipe a quand même été un moment. Alors personne ne l'attendait finaliste d'une CAN. Eu égard au potentiel du Burkina, est-ce qu'on a vu la dernière fois
la CAN? Ils étaient troisième de la dernière CAN.
Franchement, eux ils tirent 120% de leur potentiel. Hein. Il y a d'autres pays. Je préfère pas les citer.
On croit savoir à qui vous pensez.
Il y en a deux ou trois. Je peux vous donner le nom.
Il s'est passé. Il y a eu une petite déclaration du président de la fédération burkinabé, Sita Sangaré, qui croit toujours que la réclamation auprès du tribunal arbitral du sport, auprès du TAS, pourrait annuler le match où le Sénégal a gagné en Afrique du Sud, ce match à rejouer, et qui, si eux gagnent à Ouaga contre les Requins Bleus, pourrait leur donner la qualification.
Non, mais moi je les comprends, ils peuvent se sentir lésés, mais je crois que de toute façon en cas de victoire du Sénégal demain, il y a même plus de débat. Donc c'est pour ça qu'il est important pour le Sénégal de gagner ce match
derrière.
Pour un peu clore le débat et se dire de toute façon on a gagné ces deux matchs-là, on aura je crois 14 points si c'est le cas.
Ça sera fini.
Il y aura plus de débat sur ce match-là, mais je peux comprendre et je le comprends aisément que les Burkinabés se sentent lésés au vu de la décision, comme le disait Nabil, qui est exceptionnelle dans le monde du football. De faire rejouer un match et puis l'apprendre aussi tardivement, c'est aussi ça. Ils ont pu être déstabilisés.
Ça les a plombés.
Et ce qui
est
dommage pour le Burkina, c'est qu'ils avaient tout fait de parfait face au Sénégal, c'est-à-dire réduire le fait que le Sénégal ne prenne que 2 points face au Burkina et d'ensuite avoir la possibilité. Mais comme on l'a dit, ils perdent en Afrique du Sud et c'est là aussi peut-être que le Burkina perd sa place en Coupe du Monde.
Ouais, c'était. Christophe?
Ouais, juste petit point classement. Oui. Là, le Sénégal a 11 points, effectivement. Alors, le Burkina Cap-Vert de ce mardi sert à déterminer la deuxième place, comme l'expliquait Aristide Bancé. C'est-à-dire que si le Burkina fait match nul, eh bien, le Burkina reste deuxième. Et donc, si le Burkina gagnait et que le Sénégal gagnait aussi, ça ferait 5 points d'avance dans le classement final pour le Sénégal. Et il n'y aurait plus de débat, effectivement.
Voilà, les Lions qui seront donc de nouveau sur le terrain, ce sera demain soir à Dakar face à l'Afrique du Sud. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler football avec d'autres qualifiés dans la zone Afrique.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI avec Habib Bey, Nabil Djellit, Franck Simon et avec Christophe Jousset. Et nous allons entendre d'autres qualifiés très heureux, d'autres supporters surtout très heureux. La liesse au Maroc dès le coup de sifflet final à Marrakech notamment, mais aussi dans les autres grandes villes, Casablanca, Rabat, et puis dans d'autres villes où vit cette diaspora marocaine. C'était le cas à Paris sur les Champs-Élysées. C'était malheureusement bien moins heureux à Bruxelles où il y a eu des incidents très violents. En tout cas, les Marocains supporters sont donc heureux. Une qualification que eux attendaient non pas depuis 15 ans, mais ils l'attendaient depuis 20 ans puisque leur dernière participation c'était en France à la Coupe du Monde en 1998. Ils iront donc en Russie, les Lions de l'Atlas, emmenés par leur terrible renard. Le défenseur d'ailleurs, Romain Saïs, s'y voit déjà.
On est content, on travaille depuis que le coach est là pour ça. On est dans la continuité de ce qu'on fait, on a fait une très bonne phase de qualification. On est qualifié, c'est ce qu'on est venu chercher. Et maintenant, on va savourer. On est très content pour tous les Marocains. Et nous, on était sur nos forces. On était venus pour gagner. Et c'est ce qu'on a fait.
Voilà, le défenseur Romain Saïs au micro d'Olivier Pron. Olivier Pron, qui était dans le stade à Abidjan, puisque le match contre la Côte d'Ivoire des Marocains se déroulait là-bas. Il fallait que les Ivoiriens gagnent. En tout cas, il ne fallait pas qu'ils perdent. Ils ont perdu en plus sur le Saver Score de 2 à 0. En tout cas, d'abord, fête des Marocains. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Annie, salut les copains autour d'Annie.
Bonjour,
salut.
Alors Olivier, on les a vus sur la pelouse exulter ces Marocains devant effectivement pas vraiment leur public, même s'il y avait quand même 3000 Marocains qui avaient réussi à rentrer dans l'enceinte. En tout cas, c'était une qualification que nous on qualifierait de logique, mais surtout logique au vu du match.
Ils sont malins les Marocains, ils sont annoncés à 400, ils arrivent à 3000. Et en plus ils trouvent des places, rendez-vous compte. Ils ont mis une belle ambiance en tout cas, il y avait toute une partie du virage rouge, c'était très sympa à voir et je m'empresse de dire que ça s'est très bien passé à Abidjan. Avant et après le match, pas de soucis, tout le monde s'est bien entendu, en tout cas pour ce qui est des supporters. Pour le reste, oui, il n'y a pas eu photo, on peut pas dire que les Ivoiriens aient rêvé très longtemps, il fallait gagner. Et quand vous savez, quand ils encaissent le premier but, que depuis le début des éliminatoires, les Marocains, eux, n'en ont pas encaissé un seul, la tâche était très compliquée, et puis l'affaire a été définitivement pliée dès la 30e minute. Il y a eu Dirar, il y a eu Benassia, en bon capitaine, qui a scellé le sort de cette qualification à 2-0. Il y avait vraiment plus grand-chose à faire, et on aura l'occasion de reparler du niveau de jeu des Ivoiriens. Vu le niveau affiché, il y avait quand même peu de chances d'avoir une chance de marquer un but.
Les Marocains, à leur niveau, vous diriez, Nabil ?
Même mieux, franchement, sur une dynamique plus que positive. Là, il fallait être costaud quand même, parce que je veux bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas en bonne santé sportive, mais c'était quand même à Abidjan avec une vraie pression.
Et une pression sur les Ivoiriens, pas sur les Marocains.
La pression est quand même sur le Maroc.
La pression est sur les Ivoiriens.
Qu'il fallait gagner, mais
oui, ils ont besoin d'un nul.
Le Maroc, s'il se ratait à Abidjan, c'était pas de Coupe du Monde, donc la pression, elle était quand même là pour eux.
Ça fait 20 ans, eux, ils en étaient à 3 phases finales de rang. Donc, je pense que Olivier me contredira pas non plus.
J'ai l'impression que la pression populaire, même si
match. Ce que je peux dire.
Ouais, vas-y. Allez-y, Olivier.
Ce que je peux dire, c'est que, juste pour vous mettre tous les deux d'accord, la pression, elle s'est sentie les premières minutes. On était toute une bande, là, de gens que vous connaissez, Hervé Penaud, Philippe Doucet, même Philippe Zigraff, rendez-vous compte, était venu de sa Bretagne pour voir ce match. On était une bonne bande et on se disait tous, alors, on n'a pas vu un grand match, très clairement, dans l'ensemble, mais les premières minutes, on se disait, waouh, ils ont tous la trouille. Et ceux qui ont eu finalement un peu moins la trouille et qui ont développé en premier un peu de jeu sont les Marocains. Mais les premières minutes, on sentait qu'ils savaient pas quoi faire du ballon d'un côté comme de l'autre. Il y avait quand même cette énorme pression pour les uns de jouer devant leur public et de devoir gagner pour se qualifier, pour les autres de se qualifier à une Coupe du Monde pour la première fois.
Après, je préfère en tant que joueur être quand même dans la peau des Marocains ce jour-là que dans celle des Ivoiriens.
Oui. Oui.
Pour la simple et bonne raison, les Marocains avaient quand même plus ou moins cette facilité, on va dire en tout cas cette facilité, possibilité de prendre qu'un point et de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Après, la tension, elle est logique dans un événement aussi important, une Coupe du Monde comme l'a dit Nabil. Les joueurs marocains y pensaient aussi. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette équipe ivoirienne, c'est qu'on a l'impression que depuis qu'ils ont été champions d'Afrique avec Hervé Renard, cette équipe n'a pas réussi à garder une continuité. Des joueurs importants sont partis. Et derrière, on a quand même des joueurs qui sont vieillissants. On ne ressent plus cette force au sein de cet effectif. Et par contre, les Marocains, avec Hervé Renard, ils ont su, je pense que lui, en tant que manager, aujourd'hui, est très important en Afrique. Tout le monde sait ce qu'il a réussi, parce que tout le monde pense qu'il a réussi qu'en Afrique. Mais à Sochaux, il a fait de très bonnes choses, à part perdre son dernier match contre Evian. Mais c'était malgré tout très bon management de sa part. Et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il va en Afrique, et ça, c'est pas la magie qui fait ça, c'est qu'il travaille très très bien. Il réussit tout ce qu'il entreprend avec les équipes africaines. Donc, les joueurs du Maroc le savaient. Il a su ramener Benassia et lui redonner énormément d'importance au sein de ce groupe. Benassia, il a su aussi mettre de côté ses égos avec Ziyech parce qu'il y avait eu un gros problème. On se rappelle de relations avec Ziyech et il est un joueur très important de cette équipe du Maroc. Je pense que c'est très très bien que ça se renouvelle un petit peu, malheureusement pour les Ivoiriens. Mais je crois que lorsqu'on regarde ce qu'ont fait les Ivoiriens dans ce groupe et ce qu'ont fait les Marocains, Nabil parlait de continuité, ce qu'ils ont fait par exemple contre le Gabon de gagner 3-0, c'était impressionnant en termes de performance collective. C'est aujourd'hui eux qui méritent d'aller à la Coupe du Monde.
Après, il y a effectivement, là il y a un garçon qui parlait, parce que pour parler un peu d'Hervé Renard, Romain Saïs à Angers, ou même en Angleterre, il évolue comme milieu de terrain. Hervé Renard, il l'a replacé à côté de Benassia intelligemment, parce que c'est un homme de coup, un meneur, mais c'est aussi un très bon tacticien, et ça c'est important également à dire. Dirard, alors c'était déjà fait à Monaco, mais en latéral droit, t'as l'impression que tu peux aller à la guerre avec lui tous les jours. La seule réserve, à la limite, parce qu'il faut mettre un peu de perspective par rapport à cette équipe marocaine, c'est même si Boutaïb a réussi un hat-trick face au Gabon, ils ont quand même ce problème de ne pas avoir un grand buteur. Et ça, par contre, ça peut être une difficulté lors de Russie 2018.
Olivier ?
Ils ont des guerriers, et c'est bien là la patte Hervé Renard. Alors bien sûr, dans une interview qu'on a entendue hier dans Mondial Sport, peut-être d'ailleurs vous en aurez des extraits, je ne sais pas, mais voilà, il dit il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'esprit guerrier, il y a aussi la tactique, mais il y a des guerriers. Nourdine Amrabat, la première mi-temps et les trois quarts du match, c'est une teigne, une sangsue. Il ne lâche pas son vis-à-vis. Et on pourrait en citer d'autres. Le capitaine Mehdi Benassia est irréprochable sur ce match. Il a vraiment, et d'ailleurs c'était tout le discours d'Hervé Renard dans l'avant-match, la Côte d'Ivoire ce sont des individualités, le Maroc a un collectif, et le collectif il s'est bien vu avec cet esprit encore une fois guerrier, et ça c'est la patte Hervé Renard indéniablement.
Enfin ils ont des individualités aussi le Maroc, hein. Ils sont quand même capables de laisser Harit et Boufal sur le banc. Non mais c'est quand même aussi, j'entends l'esprit, j'entends le bloc, j'entends la solidarité qu'ils n'avaient pas par le passé, mais en termes de talent, en termes de joueurs de foot,
mais c'est des talents qui sont ensemble, qui jouent ensemble.
De l'autre côté, c'est pas plus fort. Hein. Quand tu laisses Harit ou Boufal sur le banc, ça situe quand même la qualité de l'effectif du Maroc.
Christophe.
Ouais, moi ce qui m'a impressionné, c'est le. On parlait de pression, mais on peut parler de pressing aussi, parce que le pressing que les Marocains ont mis sur les Ivoiriens, ça les a pas aidés à se décontracter les éléphants. Et puis la deuxième. Deuxième chose, c'est que effectivement, on pourrait parler de Boussoufa aussi, la façon dont Hervé Renard a fait évoluer le rôle de Boussoufa. Ouais, c'est lui qui l'a fait pour arriver à construire cette doublette avec Alamadi.
Totalement, il l'a choisi au départ.
Et puis il a un groupe. Il a vraiment façonné un groupe. Vous voyez un joueur comme Faisal Fajr, qui est rarement titulaire. Il irait à la guerre pour Hervé Renard. Il irait à la guerre avec le maillot des Lions de l'Atlas. On en a parlé la veille du match parce qu'on a eu la chance de passer un bon moment avec Hervé Renard et l'agent de Faisal Fajr était là et disait il est tellement fier quand il va avec l'équipe du Maroc et Hervé Renard disait mais je suis tellement content d'avoir des hommes comme lui dans ce groupe, un type qui peut s'asseoir sur le banc pendant 10 matchs et si je lui demande de sortir du banc au 11e, il sera là et si je lui demande de porter l'eau, il portera l'eau, si je lui demande de porter les maillots, il portera les maillots. Il y a une vraie unité dans ce groupe, en tout cas on l'a senti et du coup une envie qu'on n'a pas ressentie chez les Ivoiriens.
Mais c'est la patte Renard, lorsqu'il est avec la Côte d'Ivoire et qu'il est champion d'Afrique, il sort Bailly et Canon, qui sont des joueurs qui sont plus ou moins connus du grand public à ce moment-là. Il met Serédier, le capitaine, rappelez-vous, qui est un petit peu la locomotive, et je pense qu'avec le Maroc, il a fait un petit peu la même chose lorsqu'il remplace certains joueurs.
Avec la Zambie, il l'avait fait aussi.
Alors c'est vrai qu'il y a une grande capacité tactique chez lui, et il étudie aussi l'adversaire, mais il sait aussi tirer le meilleur de son groupe, et c'est ce qu'il fait avec le Maroc. Après, les individualités, Nabil l'a dit, c'est pas non plus un groupe de bras cassés.
C'est
sur la qualité technique, et puis surtout, il leur a fait retrouver aussi l'identité marocaine dans le jeu, dans cette capacité technique à jouer.
Il a mis un gamin 18 ans quand même s'il a des références avec le Real, il a fait 2-3 matchs. En Afrique, c'est pas la même. C'est beaucoup plus difficile au niveau du contexte et de la pression. Mais Achraf Hakimi, 18 ans, latéral gauche, alors que c'est un droitier, parce qu'en réalité, il joue à droite, il en a quand même, excusez-moi l'expression, il faut quand même y aller, quoi.
Ben justement, Olivier, vous l'avez rencontré, Hervé Renard, et on va l'entendre parce que au-delà de ce groupe qui l'emmène à la Coupe du Monde, lui aussi, il avait un rêve, celui d'être dans une Coupe du Monde et en tant que sélectionneur.
Quand on a choisi le challenge du Maroc avec Patrice Baumel, on s'est dit il y a de la qualité maintenant, il y a beaucoup de travail à effectuer. Et voilà, on a la chance d'obtenir ce qu'on est venu chercher. On avait démarré petitement avec 2 matchs nuls dans la compétition, mais on a su progresser. Je pense qu'on n'a pas volé notre qualification. Moi, j'ai toujours rêvé d'être sur un banc pour une Coupe du Monde et aujourd'hui, on a atteint ce but parce que j'ai été aidé d'une façon merveilleuse.
Évidemment, c'est l'objectif que lui avait fixé la fédération marocaine. Olivier, on connaît la fédération marocaine très active ces temps-ci au niveau du continent. Mais Hervé Renard, il a bien magnifié ses lions pour remplir sa mission.
Ah oui. Avec Patrice Baumel, le fidèle adjoint.
Il le cite,
il est
d'ailleurs,
là. Il est exalté comme lui. Il travaille tellement bien tous les deux, en symbiose, vraiment, ça se voit quand on les observe sur le terrain lors des séances d'entraînement. Les Marocains, ils filment leurs séances d'entraînement avec un drone pour pouvoir les rediffuser ensuite sur écran et faire de la vidéo. Il paraît que Neymar voudrait venir pour voir ça, parce qu'il adore la vidéo, Neymar. Et c'est vrai que on était dans le bus pour cette interview, pour tout vous dire, et à côté de lui, Hervé Renard, il y avait sa fille de 20 ans. Et au moment où il parlait, on sentait une émotion qui n'était pas feinte. Il a essayé de la cacher, il a serré les dents, mais il a serré la main de sa fille quand il a évoqué sa naissance en 97 et le fait qu'en 98, elle ne puisse pas se souvenir de l'équipe de France championne du monde. On sent vraiment qu'au fond de lui, c'était un des challenges. Il veut jouer la Ligue des Champions avec un club, mais il voulait une Coupe du Monde après avoir été champion continental. Il l'a, et la joie était encore un peu feinte, mais je suis à peu près sûr qu'il y a un moment dans la nuit, il a dû ouvrir la fenêtre et crier très fort.
Franck.
Hervé Renard, très très tôt en fait dans sa carrière africaine, en fait au moment où il remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations, et à Alphonse Houbon, on lui donne la parole, je fais un entretien avec lui, et c'est quelque chose sur lequel il avait insisté. J'étais un peu surpris parce qu'on n'aborde pas forcément la vie privée des gens. Et Hervé expliquait, voilà, j'ai fait de gros sacrifices. C'est-à-dire qu'il a fait des sacrifices vis-à-vis de sa famille. Mmh. Faut pas l'oublier. Des sacrifices très forts. Je me souviens d'avoir aperçu sa fille, notamment lors de la CAN au Ghana en 2008, puisqu'elle était venue l'encourager. Et donc, le début de son parcours africain, ce sont beaucoup de sacrifices. Donc voilà, Olivier le rappelle avec cette anecdote très très forte. Voilà, c'est exactement ça, Hervé Renard. Oui. Et si vous voulez, il y a une carapace. Il y a une carapace, il y a l'image qui renvoie aux médias et au grand public, mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un de.
Et alors, attendez, ça
tout à fait différent.
On va la croiser bientôt parce que figurez-vous qu'elle fait une école de journalisme à Paris et on va bien sûr la prendre en stage à Radio Foot dès que possible. Elle est née à Cannes. À 3 ans, elle était en Chine.
Si elle amène son père.
En gros, 10 ans, elle est en Afrique et elle change de pays tous les 2 ou 3 ans. Ouais. C'est une bourlingueuse. Elle est faite pour RFI, bien sûr, mais on a senti effectivement, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Et des soirs comme ce samedi soir-là, je pense qu'il a relativisé tous ses sacrifices.
Franck.
Ouais.
Encore alors, un petit mot.
Ouais. Alors c'est pas sur Hervé Renard quoique. On parle toujours des vainqueurs. Moi, je voudrais parler des vaincus, des éliminés qui sont les Ivoiriens.
Bon, bah, vous volez ma transition, mais
oui,
allez-y.
Bah, pardon, Annie. Voilà. Donc,
allez, au revoir, Annie. Hein.
Oui, je vous laisse.
J'ai coupé la parole à Olivier.
Allez-y,
pardon,
allez-y.
Olivier.
Non.
C'est simplement. Moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que Marc Wilmots et surtout la Fédération Ivoirienne ont appelé une huitaine de joueurs binationaux, des jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas forcément sous le maillot ivoirien. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont perdu. Mais c'est pas pour autant qu'il faut enlever ces garçons, il faut leur donner le temps. Ils ont eu très peu de temps. Pour moi, ça serait une erreur terrible de se passer d'un seul coup de ces gens-là. Parce que ils seraient marqués par une élimination. Ils ont des choses à faire valoir. Ils n'ont pas pu le faire face à une équipe avec l'expérience, le vécu collectif du Maroc. Mais j'espère que le sélectionneur, que ce soit Wilmots ou un autre, aura l'intelligence de continuer de puiser dans ce réservoir.
Habib, il y a une chose, c'est que, effectivement, ces Ivoiriens, il y avait une telle pression aussi que si on appelle des jeunes et si on leur donne une telle mission, peut-être que...
Six mois depuis...
C'est pas parce qu'ils l'ont... loupé qu'on va tout de suite les renvoyer chez eux. Peut-être qu'un travail est ébauché.
C'est le vrai problème. Je me rappelle d'une interview de Marc Wilmots. Il était ici chez nous à RFI par téléphone et j'étais sur le plateau et on avait entendu une phrase qui était un petit peu bizarre de sa part, de dire il faut que je prenne connaissance des joueurs que j'ai à ma disposition. Et on avait dit ici, en 6 mois, de prendre connaissance d'un effectif en Afrique avec la difficulté de qualifier une sélection pour une Coupe du Monde, j'avais dit, et beaucoup de gens avaient dit sur ce plateau, je pense que c'est pas cause perdue, mais ça va être difficile. Lorsqu'on connaît pas un effectif, on n'arrive pas en Afrique en pensant que parce qu'on a des références en Europe, parce qu'on a été un sélectionneur européen, qu'on arrive et que d'un coup de baguette magique, on prend la Côte d'Ivoire et on les amène en Coupe du Monde. Je crois qu'il a sous-estimé la difficulté d'entraîner et d'être le sélectionneur d'une équipe africaine.
Et ceux qui l'ont choisi l'ont surestimé certainement parce que
ils l'ont choisi alors qu'il n'était pas candidat.
C'est ça. Il faut rappeler
ça frise le génie quand même.
Ici, le rappel depuis 2 ou 3 jours, il n'a pas postulé. On est allé le chercher.
50 candidats, mais il n'en faisait pas partie.
Il a aussi parlé d'argent. On parle beaucoup du salaire ces derniers jours. Il n'est pas responsable du salaire qu'on lui donne. Ouais. Il le demande. Si on vient le chercher et qu'on lui donne ce salaire, c'est pas de sa faute. C'est la fédération ivoirienne à ce moment-là. Six mois après, si on fait un bilan, il est terrible, hein, le bilan. Hein.
Oui.
Six mois, 6 matchs, 4 victoires, 4 défaites. Un nul, une victoire, et à domicile, il reste sur 3 défaites de rang, et notamment première journée des éliminatoires de la CAN,
contre la Guinée,
chez eux, contre la Guinée.
Maison.
Donc il y a eu Guinée, Gabon et Maroc, 3 défaites de rang, c'est dur. Alors, puisqu'on en parle de Wilmots, excusez-moi Annie, les informations qu'on a...
Voilà, je voulais vous demander ce qu'on dit en Côte d'Ivoire à 7h.
Il a rencontré les dirigeants de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, à la mi-journée, entre 12 et 13 heures. Sori Diabaté, le vice-président, Sidi Diallo, le président, entre autres. Il part ce soir à Bruxelles, et on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Il se dit qu'il pourrait rencontrer, d'après les informations que vient de me donner par écrit notre ami Emmanuel Coffi, il pourrait rencontrer 3 organes de presse trié sur le volet. On espère qu'on en fera partie. Ce serait ballot. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Il n'est plus à l'hôtel du Golfe où il était avec ses troupes. Il est dans un autre hôtel proche de l'aéroport.
Ah, parce qu'il vit pas, il va pas sur place. Hein. C'est ça le truc.
Non, il n'y vit pas.
Ah non. Ah, il habite à l'hôtel du Golfe.
Ah, là, ça aide pas forcément.
Et là, il est dans un hôtel bien plus près de l'aéroport. Il repart ce soir à Bruxelles. Après, ce qu'il se disait, c'est que si on n'annonce rien maintenant, c'est peut-être parce qu'on lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu démissionnes ou c'est nous qui te virons ?» On n'en sait pas.
Moi, je suis d'accord, Olivier, mais à un moment donné, faut être sérieux. Un sélectionneur qui ne vit pas dans le pays dans lequel il travaille. Je suis désolé. Si demain, c'est Wilmots, mais si demain c'est un entraîneur, en imaginant demain un entraîneur ivoirien qui habite à Paris, et puis qu'est-ce qu'on va dire? On va tout de suite dire que c'est pas sérieux. Et ben, excusez-moi, lorsque vous arrivez dans une sélection et que vous ne connaissez pas 50% de votre effectif et que vous devez en prendre connaissance 6 mois avant, que vous ne vivez pas dans le pays dans lequel vous travaillez, pour moi, c'est voué à l'échec. Et si c'est voué à l'échec, c'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Il y a des enseignements à tirer. Je ne sais pas s'il faut virer Marc Wilmots, mais à un moment donné, il faut définir un cadre pour les sélectionneurs qui travaillent pour la Côte d'Ivoire et pour le faire pour la fédération et de dire, à un moment donné, si on veut des résultats, il faut un cadre, il faut une structure, il faut une continuité dans ce qu'on fait au quotidien pour cette sélection, parce que c'est un travail aussi au quotidien, même si vous les avez que quelques fois dans l'année. et redéfinir les objectifs.
Dussuyer vivait sur place, hein, son prédécesseur.
Mais Hervé Renard aussi, d'ailleurs.
Hervé Renard
Olivier,
aussi.
En plus,
et à l'hôtel, malgré tout.
Olivier, oui, en plus, il y a eu quelques bisbilles, parce que il y a eu une scène qui a tourné sur les réseaux sociaux de cette bagarre dans le carré VIP, juste avant le début du match, entre Sidi Diallo de la fédération et le président de la fédération marocaine.
Entre les deux présidents, effectivement. Ouais, ouais. Alors, il se dit que le président de la fédération marocaine, qui est un petit peu le président qui a le vent en poupe, hein,
oui.
C'est l'homme qui a l'oreille, voire plus, du président Hamad, le président de la CAF. C'est l'homme qui a le vent en poupe parce que à peu près tout ce qui a été organisé en ce moment sur le continent, boum, comme par hasard, c'est au Maroc que ça se passe. Et puis, ça se traduit sur le terrain puisqu'ils sont qualifiés. Eh ben, il était installé, vraisemblablement, d'après ce qu'on sait,
dans le mauvais
sur le siège réservé à Sidi Diallo.
Crime de lèse-majesté.
Quand Sidi Diallo est arrivé pour le saluer, alors certains disent qu'il aurait refusé de le saluer, d'autres disent Sidi Diallo lui a dit est-ce que je peux récupérer mon siège, et l'autre lui a dit bah non, et bon, ils en sont venus pas vraiment aux mains, c'est une querelle de cours d'école. Alors d'après les informations qu'on a eues à la fédération ivoirienne ce matin, il paraît que l'ambassadeur du Maroc ici a présenté des excuses, le roi Mohamed VI, qui est souvent d'ailleurs ici à Abidjan, aurait lui-même téléphoné pour calmer le jeu. Je pense qu'il faut pas en faire plus,
tempête dans un verre d'eau.
Ça n'a été, mais c'est vrai que ça la foutait mal. Quelques minutes avant la rencontre, tout le monde en tribune de presse s'est retourné parce qu'on a senti, alors c'était derrière des baies vitrées, bon, il y avait de la tension, et on peut comprendre que ces deux présidents-là puissent être tendus. Maintenant,
c'est du football,
pas des choses à faire, mais voilà. Maintenant, c'est au niveau diplomatique que ça se règle, et que ça s'est réglé vraisemblablement.
Ça aurait pu se régler avec un high kick. C'est la transition pour le prochain.
Il paraît qu'ils se sont fait la collade à la fin du match.
Embrassez-vous.
Il y avait deux candidats pour une seule place sur le siège. C'est le Maroc.
Ça arrive des fois à la CAF. Hein.
Merci beaucoup, Olivier.
Oui, souvent.
D'avoir été en direct avec nous d'Abidjan.
Merci d'avoir été.
Et puis à très bientôt.
Bon séjour à Babi.
Bon séjour et écoutez-nous quand même de temps en temps. N'oubliez pas.
Promis. J'avais plein de journalistes ivoiriens autour de moi. Ils sont tous sortis dehors pour me laisser tranquille et ils vous écoutent, je peux vous dire.
D'accord. Merci Olivier. À très bientôt. Pour terminer, on va quand même s'arrêter sur la joie des Tunisiens parce que eux aussi, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde.
Ça a été dur. Hein. Vous avez parlé de la Libye.
Exactement.
Hein. Tout le monde se moquait de moi ici. Hein.
Exactement.
Je n'aimerais pas les noms.
D'abord, on va. Mais vous avez raison, Franck, parce qu'il y avait ce match.
Comme souvent.
En Tunisie.
Oh, t'es gentil.
Il a toujours raison.
Non, pas du tout.
Mais sur l'Afrique. Non. On le sait. Non, mais il devait gagner. Il fallait au moins ne pas perdre face à la Libye. Ça a été un score nul 0-0 à la fin. Alors que de l'autre côté, la RDC qui jouait
espoir,
elle a battu la Guinée sur le score de 3-1. Et résultat, il y a eu aussi des Tunisiens sur les Champs-Élysées pour fêter leur victoire. Écoutons d'abord Wahbi Khazri, parce qu'il se projette évidemment déjà en Russie.
Super bilan, on est invaincu, on a fait une belle campagne, on a affronté de belles équipes comme le Congo, ce qui n'est pas évident. Et on est content d'aller en Russie et j'espère qu'on va faire bonne figure là-bas et qu'on n'y va pas en vacances et aller le plus loin possible.
Voilà, ils vont pas en vacances en Russie, mais peut-être qu'on va
pas
ailleurs.
Pas comme le Cameroun lors de la dernière Coupe des Confédérations, quoi. Enfin, j'ai rien dit.
Ce match, c'est tunisien, Nabil.
La Tunisie solide, sans génie, une recette qui fonctionne depuis X temps pour eux en Afrique. Je pense que leur qualification, ils l'ont glané en République démocratique du Congo quand ils sont menés 2-0.
Puis en Guinée aussi.
Grâce à M. Sakni, mais je pense que le tournant quand même, c'est que quand t'es mené face à ton adversaire direct 2-0 à l'extérieur et que tu reviens à 2 partout, à mon avis, ça a été le tournant favorable.
La Guinée, on la connaît,
elle a du talent, mais elle est intermittente. Moi, j'ai plus envie de parler du groupe tunisien et perspectives. La Tunisie, c'est peut-être l'équipe sur laquelle je mettrais ma plus petite pièce au niveau des qualifiés africains, parce que je pense que quand même c'est limité en termes de talent, et au bout d'un moment c'est vrai que c'est bien d'avoir des équipes solides, des blocs, mais il y a un moment il faut aussi des joueurs capables de faire la différence. Il y en a un, il s'appelle Youssef M. Sakni, on le connaît tous.
L'Algérie en particulier.
Pardon ?
L'Algérie, tu te souviens ?
Ouais.
Ce match.
Mais je pense que là, c'est comme quand vous faites du vélo, c'est-à-dire que quand vous arrivez en Coupe du Monde, c'est des cols hors catégorie qui vont aussi se présenter.
Qui vont faire la différence.
Attends, le tirage au sort quand même.
Non. Bon, après, c'est juste mon sentiment sur cette équipe tunisienne. Autant je mets une plus grosse pièce sur le Maroc, pour toutes les raisons qu'on a dites, autant sur la Tunisie j'ai plus de réserves, mais bravo à eux de s'être qualifiés pour une cinquième phase finale de Coupe du Monde.
Et lors des quatre premières participations, il faut le rappeler, parce que ça aussi c'est la réalité de la Coupe du Monde, que donc la Tunisie a joué pour le moment 12 matchs de Coupe du Monde et on a gagné 1.
En 78.
Voilà, contre le Mexique, ouais. Ça sera le débat suivant, mais à l'issue des éliminatoires disputées entre équipes africaines, il y a aussi ce que sont capables de faire ces équipes africaines à la Coupe du Monde qui sera intéressant de discuter.
C'est sûr que sur le papier, c'est peut-être l'équipe la moins séduisante de toutes les équipes qualifiées pour,
après,
pour la Coupe du Monde.
Hein.
Après, moi j'ai une petite déception quand même pour la RDC parce que Laurent Mbengue a fait un travail depuis maintenant de nombreuses années. On a vu qu'en Coupe d'Afrique des Nations, ils ont très très bien figuré et on avait l'impression que c'était le moment pour cette équipe, en tout cas pour cette sélection, de participer à cette grande compétition qu'est la Coupe du Monde. Et je crois que, comme l'a dit Nabil, ce match où ils menaient 2-0 est vraiment un crève-cœur, parce que je pense qu'ils avaient dans leurs mains cette capacité d'aller dans cette grande compétition et ils l'ont laissé échapper. C'est ce qui a permis à la Tunisie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Bravo à eux, on verra comme la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de dans 6 mois, donc ça sera la même chose pour la Tunisie.
Et après la Tunisie, il faut faire attention à l'opération de recrutement de binationaux en cours de route, parce que c'est déjà en train un petit peu de fuiter. Il y a quand même un groupe qui s'est qualifié. Souvenons-nous de l'Algérie 2010 qui avait viré 7 gars qui avaient qualifié l'équipe pour le résultat qui a été plutôt mitigé. J'espère qu'ils vont quand même conserver en grande partie l'ossature qui a qualifié cette équipe.
Franck, un petit mot encore peut-être sur cette RDC, parce que c'est vrai que nos amis congolais, il y a eu un moment où on les voyait participer à cette
J'ai un peu peur que ce soit la fin d'un cycle chez eux, même s'il y a eu un gros brassage de joueurs et des choses intéressantes.
Oui, parce que là, il y a eu beaucoup d'absents et finalement, ils ont réussi
ils ont remporté un beau match. Mais j'ai un peu peur qu'il y ait quand même une rupture. Ça peut être une rupture aussi sur le plan de l'encadrement technique. Ça peut être une rupture sur certains joueurs, parce qu'ils attendaient énormément de ce rendez-vous. Après, bon, on verra bien. Peut-être qu'ils trouveront la transition.
Clé, quoi, là, bien sûr. Ouais, oui, faut rester optimiste.
Pour rebondir dans ce milieu. À noter que dans la zone Europe 2 équipes, ont rejoint les qualifiés. Il s'agit de la Croatie.
Heureusement, qu'avec des joueurs comme Modric, Rakitic, Kovacic et tout ça, Perisic.
Alors, dans ces barrages un peu ennuyeux, il faut dire, surtout au niveau du résultat, la Croatie avait fait la différence au match aller, 4-1. Et là, c'était juste un 0-0 hier en Grèce. Mais ça suffisait. Et puis la Suisse aussi a décroché sa qualification 0-0 au match retour, mais comme ils avaient marqué un but à l'aller, voilà, même ce but dont on a beaucoup parlé ce soir, l'Italie qui joue cela, et puis aussi le Danemark peut-être. On se retrouve demain dans Radio Foot International, toujours plein de choses à dire. Merci à Guillaume Ploquin, merci à Louis Lafargue, et donc à demain. Merci beaucoup messieurs.